C'est un squattage virtuel qui n'a pourtant rien de virtuel. Le cybersquattage est un phénomène en hausse de 38% entre janvier et septembre de l'année dernière. Et si par exemple vous tapez vandel.com, vous ne tomberez pas sur moi, mais sur un site assez étrange qui n'a rien à voir avec ma petite personne. Dans mon cas, peu importe, je ne comptais pas me servir de l'adresse pour me présenter à la présidentielle, mais pour d'autres personnes ou pour des entreprises, les conséquences sont fortement ennuyeuses. Pour en parler, nous sommes avec Pierre Bonis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'AFNIC. C'est quoi l'AFNIC ?
L'AFNIC, c'est une association qui a la gestion du .fr et qui est aussi une association de conseil sur la sécurité et l'informatique.
Et je vais donner l'acronyme, l'Association française pour le nommage Internet en coopération. Alors, on arrive à notre sujet. Comment vous définiriez le cybersquattage ? C'est quoi ?
Alors, le cybersquattage, c'est le fait pour quelqu'un d'occuper un espace sur Internet qui est un espace qui pourrait ou qui devrait être occupé par quelqu'un d'autre.
Et quel est l'intérêt pour le squatteur ?
Il y a plusieurs types d'intérêts. Le premier intérêt classique, c'est de revendre cet espace à la personne légitime qui devrait l'occuper.
Ouais. Par exemple, on découvre un chanteur qui monte, on prend son nom, il a fait un tube, on prend son nom en .com, et après on lui dit c'est 10 000, 20 000 euros pour acheter votre nom.
Absolument, ça c'est le premier. Le deuxième motif, ça peut être des arnaques, se faire passer pour notamment une grande marque ou un site de e-commerce et récupérer des numéros de carte bleue en se faisant passer pour ce commerçant.
Ouais.
Et puis le troisième motif, parfois, c'est simplement la vengeance. Ça arrive que, par exemple, des partenaires commerciaux qui se séparent, l'un d'entre eux prenne le nom de son partenaire pour l'empêcher d'aller sur Internet. Donc ça va pas être pour le monétiser. Hein,
ouais.
Ça va être. Donc le motif du cybersquattage n'est jamais un bon motif.
Vous êtes saisi par des personnes, par des entreprises. Combien de cas arrivent à vous chaque année ?
On a à peu près 200 cas par an.
C'est-à-dire tous les deux jours. C'est quand même beaucoup.
Et uniquement sur le .fr. Hein,
ouais.
Je ne parle pas du .com et des autres. Et c'est véritablement de l'arbitrage. C'est-à-dire que c'est une sorte de mini procédure avec la défense, le requérant, des études juridiques pour arriver à savoir si on peut rendre le nom de domaine à la personne qui nous a sollicité,
ouais,
ou si on doit le laisser à la personne qui l'utilise.
Parce que parfois, vous le laissez à la personne qui l'utilise, quand c'est manifestement du squattage, du piratage, et même parfois fait depuis l'étranger, ça paraît même invraisemblable qu'il puisse y avoir un débat contradictoire.
Alors, le débat contradictoire, il est normal pour arriver à une décision. Quand c'est très évident, il n'y a aucun problème. On donne raison aux requérants dans plus de la moitié des cas. Parfois, les requérants se rendent pas compte que le cybersquatteur ou celui qui considère comme un cybersquatteur, en fait, ne fait rien d'illégal.
Ouais. Qui est concerné ? Des personnalités publiques, des entreprises, des ONG, des associations ? Qui est le plus touché ?
Alors, vous venez de citer, tout le monde peut être touché, mais en fait, les particuliers sont touchés quand ils ont un patronyme un peu connu.
Ouais.
Par exemple, vous êtes touché, manifestement, sur le .com.
Non, parce que Vandel, c'est une famille, je peux vous dire.
Ah oui,
il y a des skis, c'est une famille qui vient du Jura, il y a des skis Vandel, ça préexistait à mon arrivée.
D'accord.
Sur cette terre. Donc, c'est normal que ça existe à un moment.
Et ça, c'est pas du cybersquattage,
pas
effectivement.
Du tout.
C'est
pas
du premier arrivé, premier servi, on va dire. La plupart du temps, c'est quand même des entreprises qui se font cybersquatter, soit des marques, soit leur nom. Et puis, c'est souvent aussi la puissance publique. Il y a quelque chose d'assez classique, une annonce ministérielle. Je vais ouvrir un site pour quelque chose et j'ai oublié d'enregistrer le nom de domaine.
Ah bah tiens, exemple d'une victime de cybersquattage, la mission patrimoine de Stéphane Bern. L'adresse loto du patrimoine, avec des tirets entre loto et patrimoine, n'est pas du tout le site de la mission. Stéphane Bern l'a appris par hasard il y a presque un an.
Il y a toujours des bonnes âmes qui vous appellent pour vous dire « Ah super, j'ai trouvé sur un site l'auto du patrimoine, j'ai trouvé une statue géante de Stéphane Bern pour quelques dizaines d'euros. » Je dis « C'est quoi cette histoire ?» Et puis des gens m'ont aussi appelé en me disant « Mais alors, faut payer pour recevoir ensuite de l'argent du loto du patrimoine ?» Je dis « Mais non, c'est absolument pas possible. L'auto du patrimoine, c'est un jeu participatif. Les Français vont dans les bureaux de tabac, ils achètent des tickets de grattage. Et ensuite, oui, avec la Fondation du patrimoine, on verse de l'argent au monument en péril. Il faut rien acheter. » Donc c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, on utilisait abusivement et mon nom et le nom du loto du patrimoine. Mais vous savez, quand vous suivez, vous tracez, ça vous emmène très loin, en Irlande, dans des pays étrangers où la loi française ne s'applique pas. Et donc vous n'avez aucune protection, ni de votre identité, ni de ce qu'on fait. C'est terrifiant en fait. On se sent très démuni. Alors c'est pas de l'escroquerie, parce qu'ils abusent simplement de la crédulité. Ils jouent avec les mots loto du patrimoine, alors que le site c'est missionberne.fr. Ça c'est le site officiel, oui.
Alors c'est pas de l'escroquerie, mais quand même, le cybersquatteur tente de générer du trafic, donc des revenus publicitaires, grâce à un nom de domaine qui renvoie à quelque chose et à un nom de connu, c'est bien ça?
Tout à fait. Là, en l'occurrence, le nom connu, c'est le loto du patrimoine.
Ouais. Hein ? Et alors, qui se cache derrière le site lotodupatrimoine.fr ? On marque une pause et on répond à cette question. C'est l'info média du jour. Nous sommes en compagnie de Pierre Bonis. Il est le directeur général de l'AFNIC. L'AFNIC, c'est cette association qui gère les noms de domaine en .fr. On parlait du site web lotodupatrimoine.fr. Stéphane Bern a découvert, malheureusement, malgré lui, à l'insu de son plein gré, qu'il était détenu par d'autres gens et que ce n'est absolument pas le site officiel de son association, qui est missionberne.fr, qui se cache derrière le site web lotodupatrimoine.fr. Vous avez remonté sa trace.
Oui, pour nous, c'est assez simple, puisque comme on gère le .fr, dans notre base, on a le nom du titulaire de ce nom de domaine, comme on a le nom de tous les autres titulaires. Et je ne vais pas vous le donner, puisque c'est une personne physique et que on doit protéger son anonymat. Par contre, la Française des Jeux connaît son identité, puisque la Française des Jeux a demandé une levée d'anonymat de ce titulaire.
Adresse qui avait été déposée le 12 mars 2019, soit 6 mois après le premier tirage du loto du patrimoine. Donc il y a un petit malin qui a découvert que cette chose-là existait, et bim, il a déposé l'adresse. Le site, il est hébergé où ? En France, à l'étranger, pouvez-nous le dire ?
Alors, là, je sais pas, mais en fait, ça change rien par rapport à l'application de la loi. Si c'est du cybersquattage sous le .fr, il peut être hébergé aux Bahamas. On rétrocédera le nom de domaine à Stéphane Bern ou à la Française des Jeux.
Alors, c'est parfois très bien fait. Là, en l'occurrence, le faux site du loto du patrimoine est assez bien fait. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Vous êtes allé voir, évidemment.
Oui, je suis allé voir pour tout. Pour vous préciser quand même, l'AFNIC, elle gère les noms de domaine. Elle regarde pas trop les contenus, ouais. Hein, parce que sinon on pourrait devenir des censeurs de l'Internet. Néanmoins, on était à regarder ce qu'il y a dedans. C'est effectivement, entre guillemets, assez bien fait, c'est-à-dire qu'il y a pas de choses, en tout cas quand on a été saisi par la Française des Jeux, rien n'a été mis en avant démontrant une arnaque.
Ouais.
C'est typiquement des sites qui vont dire des banalités sur le loto du patrimoine, donc c'est pas du tout intéressant. Je dis aux internautes, surtout n'y allez pas, ça sert à rien.
Moi, je peux vous dire ce qu'il y a, je vais vous le dire. Il y a le résultat des tirages, les monuments sélectionnés, et même une biographie de Stéphane Bern, information qu'on peut trouver partout ailleurs,
et
dans tous les cas.
Probablement beaucoup mieux écrite sur le site de Stéphane Bern que sur ce site-là.
Sauf que sur ce site, il y a de la pub, et il y a plein de pubs.
Et voilà, c'est donc un moyen de monétiser, comme vous le disiez. La célébrité à la fois de Stéphane Bern et du loto du patrimoine. Et donc, clairement, il y a quelque chose à faire pour la Française des Jeux, certainement. La première chose à faire, tout de même, parce que c'est vrai que c'est quand même
assez
embêtant.
Attendez, vous savez quoi ? Oui. Ça, on pourrait le dire à Stéphane Bern, parce que lui-même s'est demandé ce qu'il y avait à faire, comment s'en sortir. C'est pas toujours simple. C'est ce qu'explique Stéphane Bern au micro de notre journaliste Magali Buteau.
C'est très difficile, j'ai mis des avocats sur le coup, alors du coup ça me coûte de l'argent, vous voyez, alors que ma mission est bénévole et que je fais ça pour rendre service aux monuments en péril, et donc je suis obligé de payer des avocats qui essayent de défendre l'intégrité, mais on essaye surtout d'informer les gens en disant écoutez, il y a que deux sites, il y a la Fondation du patrimoine ou sinon il y a missionberne.fr qui recense tous les monuments qui ont été aidés, déjà 180 en 2 ans, et tous les monuments qui sont éligible au loto du patrimoine, et on ne vous demande surtout pas d'argent.
Voilà, le message est passé pour les utilisateurs. L'indice, c'est que quand on vous demande de l'argent, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'il y a une arnaque là-dessous. Maintenant, on va répondre à la question, quels sont les recours possibles ?
Alors, le premier recours vis-à-vis de l'AFNIC, c'est justement de nous saisir, ce qui a déjà été fait par la Française des Jeux dans un premier temps, pour nous désigner ce nom de domaine et nous dire pourquoi c'est du cybersquattage. En moins de 2 mois, on donne une réponse, et si la réponse est positive, on réattribue ce nom de domaine à la Française des Jeux ou à Monsieur Merne. Ça, c'est la première réponse, c'est celle que nous, on a dans nos mains en tant que gestionnaire du .fr. Après, la deuxième réponse, qui à mon avis est encore plus efficace, c'est que, au fond, ce nom de domaine ou ce site web, le problème, c'est que c'est le premier qui arrive quand on fait une recherche Google.
Ah oui.
Et donc, ce qu'il faudrait, c'est travailler un petit peu sur le site de la fondation de Stéphane Merne et sur le site de la Française des Jeux. Ça s'appelle du référencement. Ça coûte pas très cher, de manière à ce que quand on tape l'auto du patrimoine dans Google ou dans un autre moteur de recherche, ça soit le site légitime qui arrive en premier. L'arnaqueur, entre guillemets, s'il arrive en quatrième page, ça va pas être intéressant pour lui et ça va pas embêter les internautes.
Oui, on dit 90% des gens s'arrêtent sur la première page.
Voilà.
Je sais pas si cette statistique est exacte, mais en gros, c'est l'ordre de grandeur.
C'est à peu près l'ordre de grandeur. Donc, si vous arrivez à faire descendre ces sites-là en deuxième page, vous ne risquez globalement plus rien. Ça veut pas dire qu'ils ont pas tort et qu'il faut pas les attaquer ou essayer de faire en sorte, à travers notre arbitrage, par exemple, de récupérer le nom de domaine. Mais vous avez mis fin au désordre, ouais, au fond. Et ça, c'est du référencement.
Où est-ce que ça en est, cette histoire? J'ai vu que vous aviez été alerté par un papier du Figaro du mois de septembre qui vous a donné envie de traiter ce sujet.
Oui, on a eu l'occasion d'expliquer ce qui s'était passé à l'occasion de ce papier du Figaro.
Ouais.
On a rendu une décision sur ce site, et la décision a été de rejeter la requête de la Française des Jeux. La Française des Jeux, elle peut revenir avec un meilleur dossier. Et si elle a un meilleur dossier, probablement on donnera suite positive.
Je pense à tous les patrons d'entreprises qui nous écoutent, et même tous les particuliers, et tous les gens des médias et de la culture qui nous écoutent. Comment se prémunir du cybersquattage? Que faut-il faire? Comment anticiper?
Alors, pour l'anticiper, il faut d'abord avoir une présence en ligne. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être absent d'Internet, quelque part, et essayer de chasser ceux qui se font passer pour vous. Donc la première des choses à faire, c'est de construire sa présence
en ligne. Occuper le terrain. L'on va recevoir Gentelet, par exemple, qui dépose gentelet.com et gentelet.fr.
Oui, surtout gentelet.fr. Gentelet.com, ouais, c'est moins intéressant, évidemment. Mais c'est absolument ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, à partir du moment où vous avez fait ça, vous êtes légitime pour vous battre contre tous les cybersquatteurs. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'êtes pas légitime. C'est-à-dire que c'est très compliqué de dire, cette personne-là n'a pas le droit de parler de moi, n'a pas le droit de parler de mes produits. Ce qu'il faut pouvoir dire, c'est cette personne-là se fait passer pour moi ou parasite ma communication. Donc il faut construire sa présence en ligne.
Vous avez déposé pierrebonis.fr?
Tout à fait.
Merci beaucoup Pierre Bonis. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'AFNIC. Les cordonniers sont parfois très très bien chauffés. Chaussés.
Chauffés aussi.
J'allais dire chauffés et chaussés. Je pensais à tout.